Swingtime 2022. Swingtime sur Swing FM 101.2, la radio du Yacht Club de Limoges. Swing Time, toutes les semaines, une émission présentée par des experts. Et aujourd'hui, notre expert, c'est Alain Charbonnier. Bonjour Alain.
Bonjour Martine.
Et en face de lui, il y a Dominique Gouguet.
Bonjour Martine.
Bonjour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et aujourd'hui, le thème, Alain ?
Ah ben, le thème, on va faire un blindfold test parce qu'on rentre de vacances tout de même. Hein. C'est la première émission de l'année 2022-2023. Donc, comme on rentre de vacances, je voudrais vérifier que tout le monde a bien révisé ses classiques. Et on va faire un petit blindfold test. Donc,
si tu pouvais traduire.
Je vais traduire tout de suite. Une connaissance à l'aveugle. On écoute un morceau, on doit retrouver le nom du musicien et puis le morceau. Alors, si on peut trouver jusqu'au batteur et à celui qui joue des clochettes, on le fait. Mais bon, le musicien, mais c'est des classiques aujourd'hui. Donc, ça va s'intituler « Mais qui joue du saxo ténor ?»
Alors, aujourd'hui, on va dire aussi que nous sommes entourés d'amateurs de Swing FM que nous avons invités à venir nous retrouver au studio. Et ce seront on fera de temps en temps pour faire découvrir notre radio en live et faire découvrir le Hot Club live aussi. Donc, aujourd'hui, nous recevons...
On reçoit, je dirais à peu près, la totalité des membres de Cop Atlantique, un groupe très très important. Mais comme nos élus nous ont mis un studio de 250 mètres carrés à disposition...
On n'a pas pu tous les recevoir.
On n'a pas pu tous les recevoir, mais on a reçu un certain nombre. Voilà. Donc on leur dédicace l'émission et leur fait un petit coucou amical. Coucou les amis. Et ils sont tout heureux. Voilà, ils sourient déjà, ils n'ont pas entendu de musique, mais ils vont encore plus sourire et taper du pied, comme les auditeurs, dans un instant. Donc c'est une émission qui m'a été inspirée à la suite d'une réunion du Hot Club de Limoges, durant laquelle justement on avait fait ce petit test à l'aveugle, blindfold test. Et c'était d'autres musiciens, mais aujourd'hui j'ai décidé de prendre les grands saxophonistes ténors de l'époque classique, dans la lignée Dominique de Coleman Hawkins. Donc j'ai éliminé forcément Lester Young, tu es d'accord avec moi, j'ai pas fait de bêtises.
C'est exact, Alain.
J'ai cru qu'il allait, mais j'ai fait une bêtise. Bon, donc je peux continuer l'émission et on va se rendre compte que ce n'est pas toujours aussi évident de répondre à la question « Qui est ce musicien ?» Donc ça va être une émission découverte et une émission, si j'ose ce néologisme, une émission questionnante. Alors je l'ai dit, on va s'intéresser au saxophoniste ténor qui se rattache à l'école de Coleman Hawkins. Donc on va écouter... À part le haricot, The Bean, The Hawk, ça ce sont les surnoms de Hawkins, 1904-1969, je donne leur date parce que ça se situe en 10 ans, hein, mon échantillon. On va écouter aussi Herschel Evans, 1909-1939, 30 ans, le pauvre garçon. Alors, Martine, tu vas te pâmer tout de suite.
Oui.
On va écouter Ben Webster.
L'amour de ma vie.
Voilà, l'amour de ta vie. Voilà. Ah oui, t'en as d'autres autrement. Bon, d'accord. Bon, mais ça, non, on le coupe au montage. Donc, Ben Webster, 1909-1973. Chu Berry, 1910-1941. Lui aussi est mort jeune. Don Byas, alors quelqu'un, un musicien qui, entre parenthèses, n'est pas un noir américain parce que son père était d'origine espagnole, hispanique plutôt, et sa mère était indienne de Cherokee. Donc, il n'était pas si noir que ça, finalement. La situation n'était pas meilleure, notamment pour les Indiens, parce que Doc Chisholm, qui était aussi d'origine Cherokee, disait « Il y a pire que les Noirs, il y a les Indiens ». Il avait les deux cultures, si je peux dire. Voilà, donc Don Byas, 1912-1972, un ami de Jean-Marie Mas, tout de même, un as de la pêche à la ligne, mais ça, ce n'est pas dans le sujet. Et le plus jeune de tous, qu'on a bien connu, qu'on a vu souvent à Limoges, c'était Buddy Tate, né en 1914, décédé en 2001. On va donc commencer par celui qui est le chef de file de cette famille de saxophonistes, à la sonorité puissante, lyrique, tando legato, tando véhémente. Il s'agit donc de Coleman Hawkins, notre haricot, Zbin, et qui est aussi un incomparable joueur de ballade, et c'est le premier musicien de jazz qui va mettre le ténor au premier plan, le ténor, le saxophone évidemment, à en faire un instrument soliste incontournable, et il va exercer une influence considérable auprès de ses confrères, de ses contemporains, ceux qu'on va entendre aujourd'hui. Le voici dans ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre, c'est magnifique, hein, je maintiens, mais j'en passerai à la fin, qui je pense est meilleur, et je pense que Dominique me suit sur ce terrain. Donc on va écouter ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre. C'était une des meilleures ventes de disques de jazz à l'époque. Et c'est bien sûr Body and Soul, enregistré à New York le 11 octobre 1939. À la tête de son orchestre régulier, qu'on n'entend pas beaucoup, il l'accompagne simplement, mais il y avait tout de même 9 musiciens à côté de Coleman Hawkins, mais il joue en solo d'un bout à l'autre. Et on va prendre maintenant un morceau enregistré sous le nom de Lionel Hampton en 1939, époque où Lionel faisait toutes sortes d'enregistrements avec tous les musiciens qui pouvaient piocher de ci, de là, New York, il avait le choix. C'est donc un orchestre de studio qui comporte, on s'accroche tout de suite, Coleman Hawkins au ténor, Ben Webster au ténor, Chuberry au ténor, on les entend tous les trois aujourd'hui, mais le soliste ici, Martin, tu vas nous le dire après, je ne le dis pas avant, tu vas nous dire qui est-ce après. Le morceau s'intitule Early Session Hop, New York, le 11 septembre 1939.
Thank you.
Saxophoniste, ténor, soliste, Martine.
Ben Webster.
Bravo, Martine. Ah, ton préféré. Mais il y avait aussi un autre saxophone là-dedans. Il y avait un saxophone alto et c'était Benny Carter. C'est dire que Lionel Hampton recrutait de sacrées pointures. Alors, on a pu remarquer tout de même avec Ben Webster, il y a une certaine parenté avec la sonorité de Coleman Hawkins. La même véhémence rageuse, la même sonorité pleine et puissante. Mais je crois, je le trouve comme ça, Dominique va me contredire ou m'approuver. Martine va, je sais, m'approuver, c'est sûr.
Tout de suite.
Derrière cette force du saxophoniste, il y a beaucoup de tendresse tout de même.
Oui. Oui.
C'est une brute, oui. C'est une brute qui est tendre.
Au cœur tendre.
Ouais. On fait des oxymores ici, c'est incroyable comme on est. Bon, voilà. Donc c'est comme ça qu'on va le différencier de notre haricot de Coleman Hawkins. On va écouter un troisième saxophoniste ténor. Pour commencer cette analyse comparative, on en a deux, on prend un troisième, mais il nous en faut six à la fin. Ça sera Chu Berry, qu'on peut écrire C-H-U ou C-H-E-W. In English, C-H-U, U.
Et comme chewing gum, quoi.
Voilà, C-H-I-W.
W.
Comment est-ce qu'on l'écrit, voilà. Parce que, alors non, il y a plusieurs idées. Peut-être qu'il mangeait beaucoup, donc il mâchait tout le temps. C'est une des explications, mais il y en a peut-être d'autres. Voilà. En tout cas, on revient à l'orchestre de Lionel Hampton, mais qui est réduit cette fois-ci à un sextet. Et notre ténor va être très, très en valeur dans ce Shuffling at the Hollywood, New York, le 5 avril 1939. Que penses-tu de ce saxophoniste ténor que tu connaissais, je pense?
Un petit peu, oui. C'était un virtuose incomparable, un des plus grands virtuoses de l'histoire du ténor. Hein. Après Hawkins, je crois que c'est le plus grand.
Oui, c'est sans doute. Oui.
Il se baladait très, très à l'aise sur n'importe quel tempo.
Voilà. Hein. Et lui aussi, il me semble qu'il est assez reconnaissable. Alors, avant de reconnaître Chubiri, on a entendu Cozy Cole à la batterie, Clyde Hart au piano, puisque Lionel Hampton, lui, jouait du vibraphone. À la guitare qu'on entendait, qui accompagnait bien, donc je vais le citer, c'est Alan Rose. Et à la contrebasse, Milton Hinton, le grand contrebassiste, photographe aussi, photographiait toujours en concert, donc les musiciens ou le public. Voilà, donc on a un tas de petits messages de Milton Hinton avec des photos de ci, de là. Alors, la sonorité de Chubiri, avec ce déboulé très caractéristique, eh bien, se distingue des précédentes sonorités, si je peux dire, par la nervosité, le vibrato qui me paraît un peu plus intense, beaucoup de bouillonnement dans le phrasé. Et petit clin d'œil à Ben Webster, si je peux dire, il a remplacé en 1937 Ben Webster dans l'orchestre de Cab Calloway. Donc on voit comment les cartes s'échangent ou les relais se passent. C'est un musicien majeur, Dominique, tu as raison, disparu bien trop tôt à 31 ans dans un accident d'automobile.
Ah ouais.
Il y en avait déjà à l'époque. Bessie Smith est décédé à la suite d'un accident d'automobile. Enfin, bon, ça arrivait déjà à l'époque, évidemment. On va écouter à nouveau maintenant les trois saxophonistes qu'on vient d'entendre, donc Hawkins, Webster et Berry. Et on va les écouter dans un ordre différent, sinon hein, tu nous mélanges tout ça, Martine, ça serait trop facile à trouver, puisque l'exercice va consister maintenant dans la détermination du musicien. Donc je demande à tout le monde, à Limoges, en France, en Europe, dans le monde entier, tout le monde écoute. Les trois titres qui vont suivre, le premier c'est Stardust enregistré à New York le 11 novembre 1938, donc je vous aide. Hein. Le deuxième c'est When Lights Are Low qui est enregistré toujours à New York le 11 septembre 1939. Et le troisième c'est All Too Soon enregistré encore à New York, c'est tout même facile, hein, le 22 juillet 1940. On y va, trois titres en suivant.
Mm-hmm.
Dominique, je crois que le troisième saxophoniste ténor, on sait qui c'est parce que Martine est sans voix.
Et pour que le soit sans voix,
elle va nous le dire. Quand
c'était Ben Webster.
Alors le troisième, c'était Ben Webster, effectivement. Alors on va remonter le temps. Le deuxième, eh bien, c'était Coleman Hawkins. C'est le premier, c'était Chuberry. Voilà. Alors un Chuberry inspiré d'Hawkins, mais qui joue du Chuberry avec son copain Roy Eldridge à la trompette et un pianiste qu'on a déjà entendu aujourd'hui, Clyde Hart. Coleman Hawkins, on l'a compris ou plutôt on l'a entendu. Il était avec l'orchestre de Hampton. Et on a retrouvé notre ami Benny Carter à l'alto et toujours Clyde Hart au piano. Et dans la rythmique, on pouvait remarquer, discret mais efficace, uniquement en guitare rythmique, pas en guitare soliste, Charlie Christian, le grand guitariste Charlie Christian. Et Ben Webster, on a dû comprendre qu'il était au sein de l'orchestre de Duke Ellington, qu'on entendait au départ, dont on reconnaît la patte dans l'arrangement, et le tromboniste était Lawrence Brown. Un petit peu doucereux, mais c'était le style de Lawrence Brown et Duke aimait ce style. Donc, il l'avait embauché et il l'a gardé. Alors, maintenant qu'on commence à bien différencier ces trois premiers ténors, ben on va en prendre trois autres qui sont arrivés sur le devant de la scène au tournant des années 30 et 40. On écoute tout d'abord Don Byas qui va nous emmener au paradis puisque ça s'intitule Pennies from Heaven et c'est à New York le 23 janvier 1945. Ça, on avait le All-Star de Don Byas et c'était le All-Star Quintet. On a entendu un trompettiste qu'on n'entend pas très souvent et qu'il ne faut pas confondre avec le saxophoniste du même nom, c'était Joe Thomas. Au piano, Johnny Guarnieri, un bon pianiste américain blanc, un bon pianiste de jazz. La sonorité de Don, je pense, rappelle bien sûr Coleman Hawkins, mais sa sonorité s'en distingue au moins par quatre éléments que je pourrais avancer. Je vais me faire valider cela par Dominique ensuite. Je trouve qu'il a un lyrisme flamboyant, une sonorité veloutée, même une sonorité soyeuse, et il a toujours un peu d'abandon sur le temps.
Est-ce que ça va comme... Quel poète ?
C'est
un poète ?
C'est pas de la poésie, c'est un peu de musique. Essayez de le distinguer, puisque c'est un blind faut le test. Je fais une émission sérieuse et on se paye ma tête. Je vais poser ma démission. Bon, voilà, donc c'était le magnifique Don Byers qu'on va réécouter tout à l'heure. Donc tout le monde va le retrouver, bien sûr, à l'aveugle. Et maintenant, on entend un autre saxophoniste ténor, c'est assez logique, c'est le thème de l'émission. On va aller au sein de l'orchestre de Count Basie à sa meilleure époque, donc années 30. Il s'agit d'Herschel Havens et le voici dans... une idée qui a été donnée par John Hammond, après, paraît-il, à Count, puisque ça s'intitule « John's Idea » et c'est enregistré le 3 novembre 1937. Mais attention, je vous offre ici un extrait d'une émission de radio de la CBS, CBS Broadcast. Et donc, on est dans le New Jersey, dans une petite ville de villégiature. C'est Cedar Grove. Qu'est-ce qu'on se promène à Swing FM ? On écoute.
And here's Count Basie's idea of the song titled John's Idea. Thank you.
Et on a eu droit à 5 minutes de musique, ce qui est très très fort sur un disque de 3 minutes. On en a mis 5.
C'est fort.
C'est fort. Mais évidemment, c'était une émission de radio. Il faut suivre, c'était une émission de radio. Et donc, on a eu un peu plus de musique que prévu. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Parce qu'avant, je voudrais signaler à tout le monde, Urbi et Orbi, que Martine a glissé un piège dans ce morceau. Martine, oui. Tu nous as mis un autre saxophoniste qui n'était pas dans le programme d'aujourd'hui.
D'accord.
Sans vibrato, saxophoniste ténor, c'était Lester Young. Mais coquine, Martine. On a bien vu là que tu avais fait
je
une petite blague.
Piégé.
Voilà, mais c'est pas grave parce que c'est Lester Young, comme saxophoniste ténor, c'est le beau revers d'une médaille dont on admire aujourd'hui uniquement la verre, les saxophonistes ténors de la famille de Hawkins. Et donc, mes petits chants en plus, je vous dis, vous avez eu droit à la version longue durée, parce que 4 mois auparavant, John's Idea avait été enregistré, mais il y avait 4 chorus de moins. Là, on a un petit bonus de 4 chorus. Je trouve que Swing FM gâte ses auditeurs, et ses auditrices évidemment, gâte tout le monde entier. Alors, je récapitule les solistes. Lester Young au ténor, Bobby Moore à la trompette, Count Basie au piano, Herschel Evans, c'était lui la vedette pour nous aujourd'hui, au ténor, avec un arrangement d'Eddie Durham, qui est un très très bon arrangeur, un bon musicien, un bon tromboniste, un bon guitariste, et le papa d'ailleurs de Topsy Durham, qui a pris contact avec nous parce qu'elle va bientôt écrire un deuxième livre sur son papa. Mais on en parlera quand il faudra. Voilà. Mais on fait coucou, hello Topsy. How are you? Elle va très bien. Fine, yes. Malheureusement, notre ami Herschel Evans décède très jeune lui aussi, sans doute d'un problème cardiovasculaire. Il avait à peine 30 ans. Il est décédé un mois avant ses 30 ans. Donc, il est mort très, très jeune. Et lui aussi, c'est une perte irréparable pour le jazz et pour le saxophone ténor. Alors, Count Basie va dénicher un autre sacré ténor pour remplacer Herschel Evans. Hein. Tout ça, c'est logique. C'est le bâton du relais qui se passe de main en main. Et ce saxophoniste ténor, c'est Buddy Tate, que voici dans un de ses premiers solos au sein de l'orchestre de Count Basie. Ça s'intitule « Rockabye Basie ». Et c'est aussi un broadcast. C'est une émission de CBS. Et on est à New York, là, cette fois-ci, le 15 juillet 1939. Thank you. Alors, l'émission sur CBS continue, mais c'est en 1939. Nous, on est en 2022, donc on continue l'émission sur Swing FM. En soliste, on a bien sûr entendu Buddy Tate au ténor, au piano, évidemment, Count Basie, à l'alto, Earl Warren, à la trompette, c'était Harry Edison, et puis on avait la merveilleuse section rythmique comptale de Count Basie, hein, bien connue. Si on essaye d'analyser un petit peu, d'étudier le style, la sonorité de Buddy Tate, eh bien, il a une sonorité très ample, très chaleureuse. Il joue avec la force de ce qu'on appelle les ténors texans, parce qu'il était de ce coin-là. Mais lui aussi, il est capable de tisser du velours dans ses harmoniques. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a un style tout à fait particulier. Alors, on vient d'écouter trois nouveaux ténors. Donc, on a bien nos six ténors du jour. Alors, comme tout à l'heure, on va réécouter les trois derniers saxophonistes ténors. Et la question que je vous pose, c'est saurez-vous les placer dans le bon ordre, comme tout à l'heure? On a trois titres. Le premier, c'est Taps Miller, enregistré à New York le 11 janvier 1945. C'est un vidisque, c'est un disque édité, publié, pressé pour les troupes américaines, hein, les disques de la victoire. Tous ces disques ont été bien sûr détruits après la guerre, donc ils ont disparu, sauf que tout le monde en avait mis de côté et donc ils sont réapparus aujourd'hui. Mais Terry Bond ne devrait pas les entendre, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Le deuxième titre, c'est un morceau très très connu aussi, ça s'intitule « Send for you yesterday », 16 février 1938. Et le troisième titre, « Harvard Blues », 17 novembre 1941. Thank you.
I don't keep dogs or women in in my row. I don't keep dogs or women in my row. But I love my Vincent, baby, until the day of doom. Reinhardt, Reinhardt, I'm a most indifferent guy. Reinhardt, Reinhardt, I'm a most indifferent guy. But I love my Vincent, baby, that's no Harvard line.
Il y avait encore un piège dans la première interprétation, parce qu'il y avait deux ténors en soliste. Le premier, plus véhément, c'était Buddy Tate. Mais ensuite, on a entendu un deuxième ténor qui était rentré dans l'orchestre de Count Basie. Il s'agissait de Lucky Thompson, mais il était un peu jeune, puisqu'il avait 10 ans de moins que Buddy. Il était né en 24, il est mort en 2005. Il a un style un peu plus confidentiel, on va dire. C'est un même ligné, mais un peu plus confidentiel, un jeu un peu différent, mais c'est aussi un très très bon saxophoniste ténor. Et on avait d'autres solistes, Jimmy Powell à l'alto, Harry Edison à la trompette, Dickie Wells au ténor, le pianiste, bah, c'était Count Basie, tiens, évidemment, c'était le chef d'orchestre et le pianiste. Ensuite, on avait à nouveau l'orchestre de Count Basie avec le chanteur Jimmy Rushing, qu'on a reconnu pour la plupart d'entre nous. Et le solo de ténor était l'œuvre, cette fois-ci, d'Herschel Evans, vraiment un très très bon ténor, qui était entouré, parmi les solistes j'entends, d'Earl Warren à l'alto, de Buck Clayton qui joue un obligato qui accompagnait le vocal de Jimmy Rushing, Buck Clayton à la trompette, un ami du Hot Club de Limoges évidemment. Un autre trompettiste qui a pris le solo qui a suivi, c'était Harry Edison, et on a pu reconnaître tout de même un tigre à la batterie, Joe Jones, lui aussi, qu'on a vu souvent à Limoges. Oui. Et alors, comme je suis un petit peu taquin, j'ai choisi un troisième Count Basie pour qu'on se mélange un petit peu les pinceaux dans la découverte des trois ténors. Alors, on a entendu en trois, eh bien, le superbe Don Byas, avec Jimmy Rushing, à nouveau, qui a chanté, soutenu par un autre obligato, mais de trombone, et le tromboniste était Dickie Wells. On va donc reprendre maintenant, pour finir l'émission, nos six immenses saxophonistes ténors. Et je vous demanderai de les retrouver après chaque audition. Alors, je vous mets sur la voie, je vous donne le titre et puis la date d'enregistrement. Le premier morceau, c'est Stardust, New York, le 6 septembre 1945. Thank you. pouvait avoir peut-être un petit doute, mais ce n'était pas Ben Webster, c'était Don Byas, dans une de ses plus belles interprétations, sa rhapsodise. Et puis, c'est cette sonorité soyeuse que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Et Dominique, tu confirmes que c'est un beau morceau, ce Stardust.
Formidable.
Formidable
morceau. Voilà.
On est d'accord, donc on ne se battra pas aujourd'hui dans le studio avec Dominique. Alors, on va continuer, et c'est encore un chef-d'œuvre, un de plus. Et donc là, vous n'allez pas vous tromper, ce n'est pas possible. D'autant que vous avez plus de 7 minutes pour découvrir ce saxophoniste ténor qui vous raconte un tas de choses, puisque ça s'intitule « All the Things You Are ». Los Angeles, le 11 septembre 1956. Thank you. sommet du jazz.
Qu'est-ce que c'est beau. Ah,
c'est beau, c'est beau. Alors, bien sûr, on a reconnu l'ami de Martin, the friend of Martin, Ben Webster. Et puis, alors, quel entourage. J'avais Artet Homme au piano, qu'on reconnaît tout de même avec son jeu très particulier. À la contrebasse, un très bon contrebassiste qui s'appelait Red Callender. Et à la batterie, Bill Douglas. On va entendre une autre ballade, un grand standard du jazz et un magnifique saxophoniste ténor, mais lequel ? Et on passe du côté ensoleillé de la rue, on the sunny side of the street, New York, en septembre 41. Sans doute reconnu, Tuberi, qui était à la tête d'un quintet avec Al Casser à la guitare et Clyde Hart à nouveau au piano. Maintenant, on va entendre une interprétation magistrale et la plus connue de ce saxophoniste. Il s'agit de Blue and Sentimental et c'est enregistré à New York, chez Decca, le 6 juin 1938. C'était Herschel Evans, toujours avec Count Basie, dont la main droite, je signale, a fait une petite révérence à Art Tatum au début du solo de piano. Alors le soliste à la trompette, c'est le grand type, là, le premier trompette, celui qui est tout à fait à gauche, en haut dans l'orchestre, un gars costaud, et qui jouait ici tout en douceur, tout en délicatesse, c'était Ed Lewis. Et alors, Martine, t'as encore fait une blague, t'as encore mis Lester Young.
Ben oui.
Ben oui, et alors cette fois-ci, tu nous l'as mis à la clarinette.
C'est ça.
Pour nous tromper.
Ben oui.
Qu'est-ce que tu fais de coquine, Martine, tout de même. Bon, mais ça fait rien, c'est de la belle musique, on te pardonne. Il nous reste maintenant à écouter deux ténors. Alors, celui-ci, l'avant-dernier, lequel est-ce? Et c'est un morceau qui s'intitule « You've Changed ». C'est un disque Black and Blue, donc un disque plus récent, enregistré à Paris, le 7 décembre 1967. Thank you. Superbe musique, on l'a entendu à Limoges, oui. Tout de même. C'était Buddy Tate, bien sûr, accompagné par Mill Buckner à l'orgue. Voilà, un très très beau morceau, une belle musique, un très bon ténor. Alors, on n'en a plus qu'à un trouver, c'est facile, le dernier. Alors, ce dernier titre, je voudrais le dédier à deux personnes qui me sont chères. La première, c'est le commandant Cousteau. Et la deuxième, c'est Dominique Gouguet. Donc, dédié au commandant Cousteau et à Dominique Gouguet, How Deep is the Ocean, et c'est enregistré à New York le 8 décembre 1943. Mais qui joue ?
Mm-hmm.
Cette fois, c'est Dominique qui est tombé en pamoison.
C'est un chef-d'œuvre.
C'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre du saxo-ténor.
Bon, alors là, tu désannonces, tu nous dis qui c'est, parce qu'on n'a on a pas trouvé.
Mais si. Donc, c'est le chef-d'œuvre de Coleman Hawkins.
Voilà, le chef-d'œuvre de Coleman Hawkins. C'est à la fois le commandant Cousteau, spécialisé océan, donc de ce titre-là, et de Coleman Hawkins, forcément, et Dominique Gouguet. En termes de l'océan, il connaît un peu.
Oui.
À partir de Royan, il connaît. Oui. Il ne va pas au-delà. Mais à Royan, il connaît. Mais par contre, Coleman Hawkins, alors là, il en connaît un bout. Je ne me trompe pas, Dominique.
Tu ne te trompes pas, Alain.
Bon, voilà. Eh bien, c'était effectivement Coleman Hawkins. Alors,
un bon choix, Alain.
C'était un bon choix. Voilà. Ben, je l'ai fait pour toi. Voilà.
Thank you.
Tout le monde le sait. Alors, on a goûté à 18 titres majuscules par 6 saxophonistes ténors majuscules, eux aussi. Maintenant, vous devriez pouvoir les reconnaître plus facilement lorsque vous les écouterez. C'est toujours un exercice intéressant, ces petits blindfold tests, parce qu'il éduque l'oreille, cet exercice. Il favorise l'attention, il développe l'esprit critique. Donc, vive les blindfold tests. Et on peut s'entraîner à ce petit jeu. Il y a deux moyens simples, c'est un peu les mêmes moyens. Premier moyen, c'est d'écouter cette émission en boucle. On devient très très vite, au bout de 15 à 20 fois, on est incollable sur les 6 saxophonistes ténors du jour. Et puis autrement, vous écoutez Swing FM à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. On essaye de reconnaître l'artiste qui passe. Alors, il ne faut pas tricher, parce qu'avant, il y a le titre qui apparaît sur le petit écran de la radio, de l'ordinateur. On ne regarde pas, on ne triche pas, on essaye de deviner qui est-ce. Et puis après, on regarde, il dit ah « ben, je me suis trompé », mais la plupart du temps, on dit « non, non, j'ai reconnu forcément ». Puisqu'on écoute Swing FM, je signale à toutes les auditrices, à tous les auditeurs du monde entier, puisqu'on est le 1er septembre, ils en prennent pour un an. Mais la saison, c'est 12 mois moins 2, parce qu'on prend 2 mois de vacances, on se fatigue. Hein, donc ça sera une année de 10 mois. C'est spécial à Swing FM. On a fini.
C'est Swing Time 2022. Et une nouvelle saison qui s'annonce.
Voilà.
On est contents.
Et on embrasse toutes les auditrices et même les auditeurs parce qu'on est comme ça.
On se permet. Merci pour cet excellent moment. On a passé son temps à dire qu'on passait d'un chef-d'œuvre à l'autre.
Voilà. Bah.
On se retrouve très vite.
Bien sûr.
La prochaine fois.
Et on rappelle que l'émission est diffusée donc le jeudi à partir de 21h et le dimanche à partir de 11h du matin. Elle est rediffusée.
Et 21h, c'est 21h du soir.
21h du soir, oui,
voilà,
bien sûr.
Pour préciser, c'est tu dis 11h du matin et 21h le soir.
On se retrouve, on s'embrasse.
On se fait la bise.
À bientôt.
Allez,
ciao. Au revoir à tous.